Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre 3, La religion dynamique. Jetons un coup d'œil en arrière sur la vie dont nous avions jadis suivi le développement jusqu'au point où la religion devait sortir d'elle. Un grand courant d'énergie créatrice se lance dans la matière pour en obtenir ce qu'il peut. Sur la plupart des points, il est arrêté. Ces arrêts se traduisent à nos yeux par autant d'apparitions d'espèces vivantes, c'est-à-dire d'organismes où notre regard, essentiellement analytique et synthétique, démêle une multitude d'éléments se coordonnant pour accomplir une multitude de fonctions. Le travail d'organisation n'était pourtant que l'arrêt lui-même, acte simple, analogue à l'enfoncement du pied qui détermine instantanément des milliers de grains de sable à s'entendre pour donner un dessin. Sur une des lignes où elle avait réussi à aller le plus loin, on aurait pu croire que cette énergie vitale entraînerait ce qu'elle avait de meilleur et continuerait droit devant elle. Mais elle s'infléchit et tout se recourba. Des êtres surgirent dont l'activité tournait indéfiniment dans le même cercle, dont les organes étaient les instruments tout faits au lieu de laisser la place ouverte à une invention sans cesse renouvelable d'outils dont la conscience glissait dans le somnambulisme de l'instinct au lieu de se redresser et de s'intensifier en pensée réfléchie. Tel est l'état de l'individu dans ces sociétés d'insectes dont l'organisation est savante, mais l'automatisme complet. L'effort créateur ne passa avec succès que sur la ligne d'évolution qui aboutit à l'homme. En traversant la matière, la conscience prit cette fois, comme dans un moule, la forme de l'intelligence fabricatrice, et l'invention qui porte en elle la réflexion s'épanouit en liberté. Mais l'intelligence n'était pas sans danger. Jusque-là, tous les vivants avaient bu avidement à la coupe de la vie. Ils savouraient le miel que la nature avait mis sur le bord. Ils avalaient le reste par surcroît, sans l'avoir vu. L'intelligence, elle, regardait jusqu'en bas. Car l'être intelligent ne vivait plus seulement dans le présent. Il n'y a pas de réflexion sans prévision. Pas de prévision sans inquiétude. Pas d'inquiétude sans un relâchement momentané de l'attachement à la vie. Surtout, il n'y a pas d'humanité sans société. Et la société demande à l'individu un désintéressement que l'insecte dans son automatisme pousse jusqu'à l'oubli complet de soi. Il ne faut pas compter sur la réflexion pour soutenir ce désintéressement. L'intelligence, à moins d'être celle d'un subtil philosophe utilitaire, conseillerait plutôt l'égoïsme. Par deux côtés, donc, elle appelait un contrepoids. Ou plutôt, elle en était déjà munie. Car la nature, encore une fois, ne fait pas les êtres de pièces et de morceaux. Ce qui est multiple dans sa manifestation peut être simple dans sa genèse. Une espèce qui surgit apporte avec elle, dans l'indivisibilité de l'acte qui la pose, tout le détail de ce qui la rend viable. L'arrêt même de l'élan créateur, qui s'est traduit par l'apparition de notre espèce, a donné, avec l'intelligence humaine, à l'intérieur de l'intelligence humaine, la fonction fabulatrice qui élabore les religions. Tel est donc le rôle, telle est la signification de la religion, que nous avons appelé statique ou naturelle. La religion est ce qui doit combler, chez des êtres doués de réflexion, un déficit éventuel de l'attachement à la vie. Il est vrai qu'on perçoit tout de suite une autre solution possible du problème. La religion statique attache l'homme à la vie, et par conséquent l'individu à la société, en lui racontant des histoires comparable à celle dont on berce les enfants. Sans doute, ce ne sont pas des histoires comme les autres. issue de la fonction fabulatrice par nécessité, et non pas pour le simple plaisir, elle contrefond la réalité perçue au point de se prolonger en action. Les autres créations imaginatives ont cette tendance, mais elles n'exigent pas que nous nous y laissions aller. Elles peuvent rester à l'état d'idées. Celles-là, au contraire, sont idéomotrices. Ce n'en sont pas moins des fables que des esprits critiques accepteront souvent en fait, comme nous l'avons vu, mais qu'en droit, ils devraient rejeter. Le principe actif, mouvant, dont le seul stationnement en un point extrême s'est exprimé par l'humanité, exige sans doute de toutes les espèces créées qu'elles se cramponnent à la vie. Mais comme nous le montrions jadis, si ce principe donne toutes les espèces globalement, à la manière d'un arbre qui pousse dans toutes les directions des branches terminées en bourgeons, c'est le dépôt dans la matière d'une énergie librement créatrice, c'est l'homme, quelque être de même signification, nous ne disons pas de même forme, qui est la raison d'être du développement tout entier. L'ensemble eût pu être très supérieur à ce qu'il est, et c'est probablement ce qui arrive dans des mondes où le courant est lancé à travers une matière moins réfractaire. Comme aussi le courant eût pu ne jamais trouver libre passage, pas même dans cette mesure insuffisante, auquel cas ne se serait jamais dégagée sur notre planète la qualité et la quantité d'énergie créatrice que représente la forme humaine. Mais, de toute manière, la vie est chose au moins aussi désirable, plus désirable même pour l'homme que pour les autres espèces, puisque celles-ci la subissent comme un effet produit au passage par l'énergie créatrice, tandis qu'elle est chez l'homme le succès même, si incomplet et si précaire soit-il, de cet effort. Pourquoi dès lors l'homme ne retrouverait-il pas la confiance qui lui manque ou que la réflexion a pu ébranler en remontant pour reprendre de l'élan dans la direction d'où l'élan était venu? Ce n'est pas par l'intelligence, ou en tout cas avec l'intelligence seule, qu'il pourrait le faire. Celle-ci irait plutôt en sens inverse. Elle a une destination spéciale, et lorsqu'elle s'élève dans ses spéculations, elle nous fait tout au plus concevoir des possibilités. Elle ne touche pas une réalité. Nous savons qu'autour de l'intelligence est restée une frange d'intuition vague et évanouissante. Ne pourrait-on pas la fixer, l'intensifier et surtout la compléter en action, car elle n'est devenue pure vision que par un affaiblissement de son principe, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, par une abstraction pratiquée sur elle-même. Une âme capable et digne de cet effort ne se demanderait même pas si le principe avec lequel elle se tient maintenant en contact est la cause transcendante de toute chose ou si ce n'en est que la délégation terrestre. Il lui suffirait de sentir qu'elle se laisse pénétrer sans que sa personnalité s'y absorbe par un être qui peut immensément plus qu'elle, comme le faire par le feu qui le rougit. Son attachement à la vie serait désormais son inséparabilité de ce principe, joie dans la joie, amour de ce qui n'est qu'amour. À la société, elle se donnerait par surcroît, mais à une société qui serait alors l'humanité entière, aimée dans l'amour de ce qui en est le principe. La confiance que la religion statique apportait à l'homme s'en trouverait transfigurée. Plus de soucis pour l'avenir, plus de recours inquiets sur soi-même. L'objet n'en vaudrait matériellement plus la peine et prendrait, moralement, une signification trop haute. C'est maintenant d'un détachement de chaque chose en particulier que serait fait l'attachement à la vie en général. Mais faudrait-il alors parler encore de religion? Ou fallait-il alors, pour tout ce qui précédait, employer déjà ce mot? Les deux choses ne diffèrent-elles pas au point de s'exclure et de ne pouvoir s'appeler du même nom. Il y a bien des raisons, cependant, pour parler de religion dans les deux cas. D'abord le mysticisme, car c'est à lui que nous pensons, a beau transporter l'âme sur un autre plan, il ne lui en assure pas moins, sous une forme éminente, la sécurité et la sérénité que la religion statique a pour fonction de procurer. Mais surtout, il faut considérer que le mysticisme pur est une essence rare, qu'on le rencontre le plus souvent à l'état de dilution, qu'il n'en communique pas moins alors à la masse à laquelle il se mêle sa couleur et son parfum, et qu'on doit le laisser avec elle, pratiquement inséparable d'elle, si l'on veut le prendre agissant, puisque c'est ainsi qu'il a fini par s'imposer au monde. En se plaçant à ce point de vue, on apercevrait une série de transitions et comme des différences de degré, là où réellement il y a une différence radicale de nature. Revenons en deux mots sur chacun de ces points. En le définissant par sa relation à l'élan vital, nous avons implicitement admis que le vrai mysticisme était rare. Nous aurons à parler un peu plus loin de sa signification et de sa valeur. Bornons-nous, pour le moment, à remarquer qu'il se situe, d'après ce qui précède, en un point jusqu'où le courant spirituel lancé à travers la matière aurait probablement voulu, jusqu'où il n'a pu aller. Car il se joue d'obstacles avec lesquels la nature a dû composer. Et d'autre part, on ne comprend l'évolution de la vie, abstraction faite des voies latérales sur lesquelles elle s'est engagée par force, que si on la voit à la recherche de quelque chose d'inaccessible, à quoi le grand mystique atteint. Si tous les hommes, si beaucoup d'hommes pouvaient monter aussi haut que cet homme privilégié, ce n'est pas à l'espèce humaine que la nature se fût arrêtée, car celui-là est en réalité plus qu'homme. Les autres formes du génie, on en dirait d'ailleurs autant. Toutes sont également rares. Ce n'est donc pas par accident, c'est en vertu de son essence même que le vrai mysticisme est exceptionnel. Mais quand il parle, il y a, au fond de la plupart des hommes, quelque chose qui lui fait imperceptiblement écho. Il nous découvre, ou plutôt il nous découvrirait, une perspective merveilleuse si nous le voulions. Nous ne le voulons pas, et le plus souvent, nous ne pourrions pas le vouloir. L'effort nous briserait. Le charme n'en a pas moins opéré. Et, comme il arrive quand un artiste de génie a produit une œuvre qui nous dépasse, dont nous ne réussissons pas à nous assimiler l'esprit, mais qui nous fait sentir la vulgarité de nos précédentes admirations, ainsi, la religion statique a beau subsister, elle n'est déjà plus entièrement ce qu'elle était. Elle n'ose surtout plus s'avouer quand le vrai grand mysticisme a paru. C'est à elle encore, ou du moins à elle principalement, que l'humanité demandera l'appui dont elle a besoin. Elle laissera encore travailler, en la réformant de son mieux, la fonction fabulatrice. Bref, sa confiance dans la vie restera à peu près telle que l'avait instituée la nature. Mais elle feindra sincèrement d'avoir recherché et obtenu en quelque mesure ce contact avec le principe même de la nature qui se traduit par un tout autre attachement à la vie, par une confiance transfigurée. Incapable de s'élever si haut, elle esquissera le geste, elle prendra l'attitude et dans ses discours, elle réservera la plus belle place à des formules qui n'arrivent pas à se remplir pour elle de tout leur sens, comme ces fauteuils restés vides qu'on avait préparés pour de grands personnages dans une cérémonie. Ainsi se constituera une religion mixte qui impliquera une orientation nouvelle de l'ancienne, une aspiration plus ou moins prononcée du dieu antique, issue de la fonction fabulatrice, à se perdre dans celui qui se révèle effectivement, qui illumine et réchauffe de sa présence des âmes privilégiées. Ainsi s'intercalent, comme nous le disions, des transitions et des différences apparentes de degrés entre deux choses qui diffèrent radicalement de nature et qui ne sembleraient pas, d'abord, devoir s'appeler de la même manière. Le contraste est frappant dans bien des cas, par exemple, quand des nations en guerre affirment, l'une et l'autre, avoir pour elles un dieu qui se trouve ainsi être le dieu national du paganisme, alors que le dieu dont elles s'imaginent parler est un dieu commun à tous les hommes, dont la seule vision par tous serait l'abolition immédiate de la guerre. Et pourtant, il ne faudrait pas tirer parti de ce contraste pour déprécier des religions qui, nées du mysticisme, ont généralisé l'usage de ces formules sans pouvoir pénétrer l'humanité entière de la totalité de son esprit. Il arrive à des formules presque vides de faire surgir ici ou là, véritables paroles magiques, l'esprit capable de les remplir. Un professeur médiocre, par l'enseignement machinal d'une science que créèrent des hommes de génie, éveillera chez tel de ses élèves la vocation qu'il n'a pas eue lui-même et le convertira inconsciemment en émule de ces grands hommes, invisibles et présents dans le message qu'il transmet. Il y a pourtant une différence entre les deux cas, et si l'on en tient compte, on verra s'atténuer en matière de religion l'opposition entre le statique et le dynamique sur laquelle nous venons d'insister pour mieux marquer les caractères de l'un et de l'autre. La grande majorité des hommes pourra rester à peu près étrangère aux mathématiques, par exemple, tout en saluant le génie d'un Descartes ou d'un Newton. Mais ceux qui se sont inclinés de loin devant la parole mystique, parce qu'ils en entendaient au fond d'eux-mêmes le faible écho, ne demeureront pas indifférents à ce qu'elle annonce. S'ils avaient déjà des croyances, et s'ils ne veulent ou ne peuvent pas s'en détacher, ils se persuaderont qu'ils les transforment et ils les modifieront par là effectivement. Les éléments subsisteront, mais magnétisés et tournés dans un autre sens par cette aimantation. Un historien des religions n'aura pas de peine à retrouver dans la matérialité d'une croyance vaguement mystique qui s'est répandue parmi les hommes des éléments mythiques et même magiques. Il prouvera ainsi qu'il y a une religion statique, naturelle à l'homme, et que la nature humaine est invariable. Mais s'il s'en tient là, il aura négligé quelque chose, et peut-être l'essentiel. Du moins aura-t-il, sans précisément le vouloir, jeté un pont entre le statique et le dynamique, et justifier l'emploi du même mot dans des cas aussi différents. C'est bien à une religion qu'on a encore affaire, mais à une religion nouvelle. Nous nous en convaincrons encore mieux. Nous verrons par un autre côté comment ces deux religions s'opposent et comment elles se rejoignent. Si nous tenons compte des tentatives de la seconde pour s'installer dans la première avant de la supplanter. À vrai dire, c'est nous qui les convertissons en tentatives rétroactivement. Elles furent, quand elles se produisirent, des actes complets qui se suffisaient à eux-mêmes, et elles ne sont devenues des commencements ou des préparations que du jour où elles ont été transformées en un succès par une réussite finale, grâce au mystérieux pouvoir que le présent exerce sur le passé. Elles ne nous en serviront pas moins à jalonner un intervalle, à analyser en ces éléments virtuels l'acte indivisible par lequel la religion dynamique se pose et à montrer du même coup, par la direction évidemment commune des élans qui n'ont pas abouti, comment le saut brusque, qui fut définitif, n'eut rien d'accidentel. Au premier rang, parmi les esquisses du mysticisme futur, nous placerons certains aspects des mystères païens. Il ne faudrait pas que le mot nous fît illusion. La plupart des mystères n'eut rien de mystique. Ils se rattachaient à la religion établie, qui trouvait tout naturel de les avoir à côté d'elle. Ils célébraient les mêmes dieux, ou des dieux issus de la même fonction fabulatrice. Ils renforçaient simplement chez les initiés l'esprit religieux, en le doublant de cette satisfaction que les hommes ont toujours éprouvée à former de petites sociétés au sein de la grande et à s'ériger en privilégiés par le fait d'une initiation tenue secrète. Les membres de ces sociétés closes se sentaient plus près du dieu qu'ils invoquaient, ne fût-ce que parce que la représentation des scènes mythologiques jouait un plus grand rôle ici que dans les cérémonies publiques. En un certain sens, le dieu était présent, les initiés participaient quelque peu de sa divinité. Ils pouvaient donc espérer d'une autre vie plus et mieux que ce que faisait attendre la religion nationale. Mais il n'y avait là, probablement, que des idées importées toutes faites de l'étranger. Et on sait à quel point l'Égypte avait toujours été préoccupée du sort de l'homme après la mort, et l'on se rappelle le témoignage d'Hérodote, d'après lequel la Déméter des mystères éleusiens et le Dionysos de l'orphisme auraient été des transformations d'Isis et d'Osiris. De sorte que la célébration des mystères, ou tout au moins ce que nous en connaissons, ne nous offre rien qui est tranché absolument sur le culte public. À première vue, on ne trouverait donc pas plus de mysticité à cette religion qu'à l'autre. Mais nous ne devons pas nous en tenir à l'aspect qui était probablement le seul à intéresser la plupart des initiés. Nous devons nous demander si certains points au moins de ces mystères ne portaient pas la marque de telle ou telle grande personnalité dont ils pouvaient faire revivre l'esprit. Nous devons aussi noter que la plupart des auteurs ont insisté sur les scènes d'enthousiasme où le dieu prenait réellement possession de l'âme qu'il invoquait. Par le fait, les mystères les plus vivaces, qui finirent par entraîner dans leur mouvement les mystères éleusiniens eux-mêmes, furent ceux de Dionysos et de son continuateur, Orphée. Dieu étranger venu de Thrace, Dionysos contrastait par sa violence avec la sérénité des Olympiens. Il ne fut pas d'abord le dieu du vin, mais il le devint sans peine, parce que l'ivresse où il mettait l'âme n'était pas sans ressemblance avec celle que le vin produit. On sait comment William James fut traité pour avoir qualifié de mystique, ou étudié comme tel, l'état consécutif à une inhalation de protoxyde d'azote. On voyait là de l'irréligion. Et l'on aurait eu raison si le philosophe avait fait de la révélation intérieure un équivalent psychologique du protoxyde, lequel aurait alors été, comme disent les métaphysiciens, cause adéquate de l'effet produit. Mais l'intoxication ne devait être à ses yeux que l'occasion. L'état d'âme était là, préfiguré sans doute avec d'autres, et n'attendait qu'un signal pour se déclencher. Il eût pu être évoqué spirituellement par un effort accompli sur le plan spirituel qui était le sien. Mais il pouvait aussi bien l'être matériellement par une inhibition de ce qui l'inhibait, par la suppression d'un obstacle, et tel était l'effet tout négatif du toxide. Le psychologue s'adressait de préférence à celui-ci qui lui permettait d'obtenir le résultat à volonté. Ce n'était peut-être pas honorer davantage le vin que de comparer ses effets à l'ivresse dionysiaque. Mais là n'est pas le point important. Il s'agit de savoir si cette ivresse peut être considérée rétrospectivement à la lumière du mysticisme, une fois parue, comme annonciatrice de certains états mystiques. Pour répondre à la question, il suffit de jeter un coup d'œil sur l'évolution de la philosophie grecque. Cette évolution fut purement rationnelle. Elle porta la pensée humaine à son plus haut degré d'abstraction et de généralité. Elle donna aux fonctions dialectiques de l'esprit tant de force et de souplesse qu'aujourd'hui encore, pour les exercer, c'est à l'école des Grecs que nous nous mettons. Deux points sont pourtant à noter. Le premier est qu'à l'origine de ce grand mouvement, il y eut une impulsion ou une secousse qui ne fut pas d'ordre philosophique. Le second est que la doctrine à laquelle le mouvement aboutit et où la pensée hellénique trouva son achèvement, prétendit dépasser la pure raison. Il n'est pas douteux, en effet, que l'enthousiasme dionysiaque se soit prolongé dans l'orphisme et que l'orphisme se soit prolongé en pythagorisme. Or, c'est à celui-ci, peut-être même à celui-là, que remonte l'inspiration première du platonisme. On sait dans quelle atmosphère de mystère, au sens orphique du mot, baignent les mythes platoniciens, et comment la théorie des idées elle-même inclina par une sympathie secrète vers la théorie pythagoricienne des nombres. Sans doute, aucune influence de ce genre n'est sensible chez Aristote et ses successeurs immédiats. Mais la philosophie de Plotin, à laquelle ce développement aboutit, et qui doit autant à Aristote qu'à Platon, est incontestablement mystique. Si elle a subi l'action de la pensée orientale, très vivante dans le monde alexandrin, ce fut à l'insu de Plotin lui-même, qui a cru ne faire autre chose que de condenser toute la philosophie grecque pour l'opposer précisément aux doctrines étrangères. Ainsi, en résumé, il y eut à l'origine une pénétration de l'orphisme et à la fin, un épanouissement de la dialectique en mystique. De là, on pourrait conclure que c'est une force extra-rationnelle qui suscita ce développement rationnel et qui le conduisit à son terme, au-delà de la raison. C'est ainsi que les phénomènes lents et réguliers de sédimentation, seuls apparents, sont conditionnés par d'invisibles forces éruptives qui, en soulevant à certains moments l'écorce terrestre, imprime sa direction à l'activité sédimentaire. Mais une autre interprétation est possible, et elle serait, à notre sens, plus vraisemblable. On peut supposer que le développement de la pensée grecque fut l'œuvre de la seule raison, et qu'à côté de lui, indépendamment de lui, se produisit de loin en loin, chez quelques âmes prédisposées, un effort pour aller chercher, par-delà l'intelligence, une vision, un contact, la révélation d'une réalité transcendante. Cet effort n'aurait jamais atteint le but, mais chaque fois, au moment de s'épuiser, il aurait confié à la dialectique ce qui restait de lui-même, plutôt que de disparaître tout entier. Et ainsi, avec la même dépense de force, une nouvelle tentative pouvait ne s'arrêter que plus loin, l'intelligence se trouvant rejointe en un point plus avancé d'un développement philosophique qui avait, dans l'intervalle, acquis plus d'élasticité et comportait plus de mysticité. Par le fait, nous voyons une première vague purement dionysiaque venir se perdre dans l'orphisme, qui était d'une intellectualité supérieure. Une seconde, qu'on pourrait appeler orphique, aboutit au pythagorisme, c'est-à-dire à une philosophie. À son tour, le pythagorisme communiqua quelque chose de son esprit au platonisme, et celui-ci, l'ayant recueilli, s'ouvrit naturellement plus tard au mysticisme alexandrin. Mais de quelque manière qu'on se représente le rapport entre les deux courants, l'un intellectuel, l'autre extra-intellectuel, c'est seulement en se plaçant au terme qu'on peut qualifier celui-ci de supra-intellectuel ou de mystique, et tenir pour mystique une impulsion qui partit des mystères. Resterait à savoir alors si le terme du mouvement fut un mysticisme complet. On peut donner au mot le sens qu'on veut, pourvu qu'on le définisse d'abord. À nos yeux, l'aboutissement du mysticisme est une prise de contact, et par conséquent une coïncidence partielle avec l'effort créateur que manifeste la vie. Cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même. Le grand mystique serait une individualité qui franchirait les limites assignées à l'espèce par sa matérialité, qui continuerait et prolongerait ainsi l'action divine. Telle est notre définition. Nous sommes libres de la poser, pourvu que nous nous demandions si elle trouve jamais son application, si elle s'applique alors à tel ou tel cas déterminé. En ce qui concerne Plotin, la réponse n'est pas douteuse. Il lui fut donné de voir la terre promise, mais non pas d'en fouler le sol. Il alla jusqu'à l'extase, à un état où l'âme se sent ou croit se sentir en présence de Dieu, étant illuminée de sa lumière. Il ne franchit pas cette dernière étape pour arriver au point où la contemplation, venant s'abîmer dans l'action, la volonté humaine se confond avec la volonté divine. Il se croyait au fait. Aller plus loin eût été pour lui descendre. C'est ce qu'il a exprimé dans une langue admirable, mais qui n'est pas celle du mysticisme plein. L'action, dit-il, est un affaiblissement de la contemplation. Par là, il reste fidèle à l'intellectualisme grec. Il le résume même dans une formule saisissante. Du moins, l'a-t-il fortement imprégné de mysticité. En un mot, le mysticisme, au sens absolu où nous convenons de le prendre, n'a pas été atteint par la pensée hellénique. Il aurait sans doute voulu être. Il a, simple virtualité, plusieurs fois frappé à la porte. Celle-ci s'est entrebâillée de plus en plus largement, mais ne l'a jamais laissé passer tout entier. La distinction est radicale ici entre la mystique et la dialectique. Elles se rejoignent seulement de loin en loin. Ailleurs, au contraire, elles ont été constamment mêlées, s'entraidant en apparence, peut-être s'empêchant réciproquement d'aller jusqu'au bout. C'est ce qui est arrivé, croyons-nous, à la pensée hindoue. Nous n'entreprendrons pas de l'approfondir ou de la résumer. Son développement s'étend sur des périodes considérables. Philosophie et religion, elle s'est diversifiée selon les temps et les lieux. Elle s'est exprimée dans une langue dont beaucoup de nuances échappent à ceux-mêmes qui la connaissent le mieux. Les mots de cette langue sont d'ailleurs loin d'avoir conservé un sens invariable, à supposer que ce sens ait toujours été précis, ou qu'il l'ait été jamais. Mais pour l'objet qui nous occupe, un coup d'œil jeté sur l'ensemble des doctrines suffira. Et, comme pour obtenir cette vision globale, nous devrons nécessairement nous contenter de superposer ensemble des vues déjà prises, nous aurons quelques chances en considérant de préférence les lignes qui coïncident, de ne pas nous tromper. Disons d'abord que l'Inde a toujours pratiqué une religion comparable à celle de l'ancienne Grèce. Les dieux et les esprits y jouaient le même rôle que partout ailleurs. Les rites et cérémonies étaient analogues. Le sacrifice avait une importance extrême. Ces cultes persistèrent à travers le brahmanisme, le jainisme et le bouddhisme. Comment étaient-ils compatibles avec un enseignement tel que celui du Bouddha? Il faut remarquer que le bouddhisme, qui apportait aux hommes la délivrance, considérait les dieux eux-mêmes comme ayant besoin d'être délivrés. Il traitait donc hommes et dieux en êtres de même espèce, soumis à la même fatalité. Cela se concevrait bien dans une hypothèse telle que la nôtre. L'homme vit naturellement en société, et par l'effet d'une fonction naturelle que nous avons appelée fabulatrice, il projette autour de lui des êtres fantasmatiques qui vivent d'une vie analogue à la sienne, plus haute que la sienne, solidaire de la sienne. Telle est la religion que nous tenons pour naturelle. Les penseurs de l'Inde se sont-ils jamais représentés ainsi les choses? C'est peu probable. Mais tout esprit qui s'engage sur la voie mystique hors de la cité sent, plus ou moins confusément, qu'il laisse derrière lui les hommes et les dieux. Par là même, il les voit ensemble. Maintenant, jusqu'où la pensée hindoue est-elle allée dans cette voie? Il ne s'agit bien entendu que de l'Inde antique, seule avec elle-même, avant l'influence qu'a pu exercer sur elle la civilisation occidentale, ou le besoin de réagir contre elle. Statique ou dynamique, en effet, nous prenons la religion à ses origines. Nous avons trouvé que la première était préfigurée dans la nature. Nous voyons maintenant dans la seconde un bon hors de la nature, et nous considérons d'abord le bon dans des cas où l'élan fut insuffisant ou contrarié. À cet élan, il semble que l'âme hindoue se soit essayée par deux méthodes différentes. L'une d'elles est à la fois physiologique et psychologique. On en découvrirait la plus lointaine origine dans une pratique commune aux hindous et aux iraniens, antérieure par conséquent à leur séparation. Le recours à la boisson enivrante que les uns et les autres appelaient soma. C'était une ivresse divine comparable à celle que les fervents de Dionysos demandaient au vin. Plus tard, vint un ensemble d'exercices destinés à suspendre la sensation, à ralentir l'activité mentale, enfin à introduire des états comparables à celui d'hypnose. Ils se systématisèrent dans le yoga. Était-ce là du mysticisme au sens où nous prenons le mot? Des états hypnotiques n'ont rien de mystique par eux-mêmes, mais ils pourront le devenir ou du moins annoncer et préparer le mysticisme vrai par la suggestion qui s'y insérera. Ils le deviendront facilement. Leur forme sera prédisposée à se remplir de cette matière s'ils dessinent déjà des visions, des extases, suspendant la fonction critique de l'intelligence. Telle a dû être, par un côté au moins, la signification des exercices qui finissent par s'organiser en yoga. Le mysticisme n'y était qu'à l'état d'ébauche, mais un mysticisme plus accusé, concentration purement spirituelle, pouvait s'aider du yoga dans ce que celui-ci avait de matériel et par là même le spiritualiser. De fait, le yoga semble avoir été, selon les temps et les lieux, une forme plus populaire de la contemplation mystique ou un ensemble qui l'englobait. Reste à savoir ce que fut cette contemplation elle-même et quel rapport elle pouvait avoir avec le mysticisme tel que nous l'entendons. Dès les temps les plus anciens, l'hindou spécula sur l'être en général, sur la nature, sur la vie. Mais son effort qui s'est prolongé pendant un si grand nombre de siècles n'a pas abouti, comme celui des philosophes grecs, à la connaissance indéfiniment développable que fut déjà la science hellénique. La raison en est que la connaissance fut toujours à ses yeux un moyen plutôt qu'une fin. Il s'agissait pour lui de s'évader de la vie qui lui était particulièrement cruelle. Et par le suicide, il n'aurait pas obtenu l'évasion, car l'âme devait passer dans un autre corps après la mort, et c'eût été à perpétuité un recommencement de la vie et de la souffrance. Mais dès les premiers temps du brahmanisme, il se persuada qu'on arrivait à la délivrance par le renoncement. Ce renoncement était une absorption dans le tout comme aussi en soi-même. Le bouddhisme, qui vint infléchir le brahmanisme, ne le modifia pas essentiellement. Il en fit surtout quelque chose de plus savant. Jusque-là, on avait constaté que la vie était souffrance. Le Bouddha remonta jusqu'à la cause de la souffrance. il la découvrait dans le désir en général, dans la soif de vivre. Ainsi, put être tracé avec une précision plus haute le chemin de la délivrance. Brahmanisme, bouddhisme et même jainisme ont donc prêché avec une force croissante l'extinction du vouloir vivre. Et cette prédication se présente au premier abord comme un appel à l'intelligence. Les trois doctrines ne différant que par leur degré plus ou moins élevé d'intellectualité. Mais à y regarder de près, on s'aperçoit que la conviction qu'elle visait à implanter était loin d'être un état purement intellectuel. Déjà dans l'ancien brahmanisme, ce n'est pas par le raisonnement, ce n'est pas par l'étude que s'obtient la conviction dernière. Elle consiste en une vision communiquée par celui qui a vu. Le bouddhisme, plus savant d'un côté, est plus mystique encore de l'autre. L'état où il achemine l'âme est au-delà du bonheur et de la souffrance, au-delà de la conscience. C'est par une série d'étapes et par toute une discipline mystique qu'il aboutit au nirvana, suppression du désir pendant la vie et du karma après la mort. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine de la mission du Bouddha est l'illumination qu'il eut dans sa première jeunesse. Tout ce que le bouddhisme a d'exprimable en mots peut être sans doute traité comme une philosophie. Mais l'essentiel est la révélation définitive, transcendante à la raison comme à la parole. C'est la conviction, graduellement gagnée et subitement obtenue, que le but est atteint. Fini la souffrance, qui est tout ce qu'il y a de déterminé, et par conséquent de proprement existant dans l'existence. Si nous considérons que nous n'avons pas ici affaire à une vue théorique, mais à une expérience qui ressemble beaucoup à une extase, que dans un effort pour coïncider avec l'élan créateur, une âme pourrait prendre la voie ainsi décrite et n'échouerait que parce qu'elle se serait arrêtée à mi-chemin, détachée de la vie humaine, mais n'atteignant pas à la vie divine, suspendue entre deux activités dans le vertige du néant, nous n'hésiterons pas à voir dans le bouddhisme un mysticisme. Mais nous comprendrons pourquoi le bouddhisme n'est pas un mysticisme complet. Celui-ci serait action, création, amour. Non pas certes que le bouddhisme ait ignoré la charité. Il l'a recommandé au contraire en termes d'une élévation extrême. Au précepte, il a joint l'exemple. Mais il a manqué de chaleur. Comme l'a dit très justement un historien des religions, il a ignoré le don total et mystérieux de soi-même. Ajoutant, et c'est peut-être au fond la même chose, qu'il n'a pas cru à l'efficacité de l'action humaine. Il n'a pas eu confiance en elle. Seule cette confiance peut devenir puissance et soulever les montagnes. Un mysticisme complet fut allé jusque-là. Il s'est rencontré peut-être dans l'Inde, mais beaucoup plus tard. C'est en effet une charité ardente. C'est un mysticisme comparable au mysticisme chrétien que nous trouvons chez un Ramakrishna ou un Vivekananda, pour ne parler que des plus récents. Mais précisément, le christianisme avait surgi dans l'intervalle. Son influence sur l'Inde, venue d'ailleurs à l'islamisme, a été bien superficielle. Mais à des âmes prédisposées à une simple suggestion, un signal suffit. Admettons pourtant que l'action directe du christianisme en tant que dogme ait été à peu près nulle dans l'Inde. Comme il a pénétré toute la civilisation occidentale, on le respire, ainsi qu'un parfum, dans ce que cette civilisation apporte avec elle. L'industrialisme lui-même, comme nous essaierons de le montrer, en dérive indirectement. Or, c'est l'industrialisme, c'est notre civilisation occidentale, qui a déclenché le mysticisme d'un Ramakrishna ou d'un Vivekananda. Jamais ce mysticisme ardent, agissant, ne se fût produit au temps où l'hindou se sentait écrasé par la nature et où toute intervention humaine était inutile. Que faire lorsque des famines inévitables condamnent des millions de malheureux à mourir de faim? Le pessimisme hindou avait pour principale origine cette impuissance. Et c'est le pessimisme qui a empêché l'Inde d'aller jusqu'au bout de son mysticisme, puisque le mysticisme complet est action. Mais viennent les machines qui accroissent le rendement de la terre et qui surtout en font circuler les produits. Viennent aussi des organisations politiques et sociales qui prouvent expérimentalement que les masses ne sont pas condamnées à une vie de servitude et de misère, comme à une nécessité inéluctable, la délivrance devient possible dans un sens tout nouveau. La poussée mystique, si elle s'exerce quelque part avec assez de force, ne s'arrêtera plus net devant des impossibilités d'agir. Elle ne sera plus refoulée sur des doctrines de renoncement ou des pratiques d'extase. Au lieu de s'absorber en elle-même, l'âme s'ouvrira, toute grande, à un universel amour. Or, ces inventions et ces organisations sont des sens occidentales. Ce sont elles qui ont permis ici au mysticisme d'aller jusqu'au bout de lui-même. Concluons donc que, ni dans la Grèce, ni dans l'Inde antique, il n'y eut de mysticisme complet, tantôt parce que l'élan fut insuffisant, tantôt parce qu'il fut contrarié par les circonstances matérielles ou par une intellectualité trop étroite. C'est son apparition à un moment précis qui nous fait assister rétrospectivement à sa préparation, comme le volcan qui surgit tout d'un coup éclaire dans le passé une longue série de tremblements de terre.